Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'estival du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 juillet, pas d'émission exceptionnellement hier à cause du jour férié, oui, mais une petite rectification à apporter concernant le sujet qui a été diffusé dans la dernière émission. Donc mercredi, les jeunes de Mayenne qui se sont préparés toute l'année en fait pour partir au Festival d'Avignon cette semaine n'ont, contrairement à ce qui a été dit, malheureusement pas pu partir pour des problèmes de logement à la dernière minute. Le séjour de 4 jours est donc reporté à l'année prochaine, à juillet 2023. On revient donc à aujourd'hui, vendredi 15 juillet, dans lequel, vous savez, on va se pencher dans les prochains jours avec non pas un, mais deux choix à l'agenda aujourd'hui. Et on commence avec un week-end dans la nature, comme les hommes préhistoriques, hommes et femmes préhistoriques. C'est ce que vous propose la fête de l'Étimbule à Pré-en-Paille ce week-end. Quatrième fête du nom pour cette archéoferme qui vit tout au long de l'année, avec donc cette fête en apothéose pendant deux jours, comme l'explique Clotilde Béjuge. Elle est animatrice, médiatrice pour l'Étimbule et archéologue de métier. Elle commence par planter le décor.
Le point d'origine de l'association, c'est une expérience professionnelle qui questionne en fait ce rapport à l'environnement, puisque quand on parle des sociétés anciennes, des sociétés préhistoriques, on parle de sociétés qui prélèvent tous leurs matériaux, leur alimentation dans leur environnement. Et en fait, en faisant des visites, on s'est rendu compte sur d'autres sites, sur d'autres lieux, avec d'autres publics, que ça, les gens, ça les interrogeait beaucoup par rapport à ce que nous, on vit, comment on vit par rapport à nos gestes techniques. On a senti qu'il y avait un lien très fort, en fait, entre comment on a vécu par le passé et comment on vit aujourd'hui et comment on doit repenser peut-être notre façon de vivre, notre rapport à la nature de nos jours. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de transmettre aux gens des savoir-faire, des gestes techniques qui sont issus de la nature et inspirés du passé. Donc, des fois, on va piocher dans la préhistoire, mais parfois, ça peut être dans l'époque gauloise ou romaine ou médiévale. Ça dépend du savoir-faire qu'on veut illustrer. Il y a l'archéoferme de l'Étimbule, sur lequel vous retrouverez un campement préhistorique, un four de potier gaulois, un bar qui est d'inspiration au Moyen-Âge. Donc voilà, vous êtes nécessairement dans un mélange des périodes et des cultures. Et puis on vous proposera de vivre la vie d'un homme préhistorique sur le campement. Et Récit de bataille, qui est le spectacle de 18h, lui vous emmènera au cœur de la guerre des Gaules. Donc on voyagera aussi dans le temps ce week-end. Sur le campement, en fait, on vous propose de pratiquer. On vous propose de fabriquer votre pain comme au néolithique, de faire votre parure, de faire votre bijou en utilisant des outils en silex, de faire votre poterie. Ici, l'idée, c'est que les gens soient participants, toujours. C'est aussi le cas à la fête. Et puis pour récit de bataille, la guerre des Gaules, ce sera de vous laisser emmener par le spectacle. Là, ce sera tout un voyage guidé par un comédien. Sur nos constructions, en fait, on se documente. On va chercher de l'information archéologique et on essaye de... Non pas de reproduire, mais de respecter le sens archéologique. C'est l'avantage d'avoir des gens dans l'équipe qui savent lire des plans de fouilles. Par exemple, on a fait un four de potier cette année, qui est un four de potier, une restitution du four de potier qui a été trouvé sur le site de l'Acarie à Entrammes. Donc là, voilà, on a repris les cotes de ce four-là. Il y aura des espaces de création land art, par exemple, des ateliers de découverte de métiers de archéobotaniste. C'est la nature du passé. Mais il y aura aussi un rallye nature pour les plus aventureux d'entre vous qui partira dans les bois pour apprendre à observer, reconnaître la nature qui nous environne. Là, on a parlé des grands pôles, mais il y aura aussi des temps de compte, un espace de jeu, un coin de bibliothèque pour se reposer. On a toujours eu envie d'avoir un public familial en journée, qu'on puisse venir avec des tout petits, des plus grands, des moyens et puis des plus âgés aussi. Ah, on a des concerts samedi soir, effectivement, et puis dimanche en fin d'après-midi aussi. On aime faire danser, donc on a une soirée qui va commencer par 19h45 par un concert de Maggie Boy, qui n'est pas forcément là très dansant, mais qui est plutôt rigolo. Et on enchaînera avec les Migrateurs qui, eux, font de la folk. On va danser de l'Irlande au balcon, avant de finir la soirée par les fins de siècle, qui eux reprennent des chansons de marins, mais revisitées avec un petit côté pirate. Et pour ceux qui ont vraiment, vraiment envie de danser jusqu'au bout de la nuit, on clôturera par le Dance Floor des Avaloirs, qui n'est ni plus ni moins qu'un très bon DJ set. On a une écoute sous casque de textes qui questionnent la femme et la préhistoire. Et puis un petit spectacle de marionnettes, un entresort de marionnettes en caravane, qui raconte l'histoire de la première femme paléontologue. On est à la jonction de plein d'enjeux là. On est assez contents pour cette quatrième édition puisque ça fait quelques années qu'on a principalement programmé des artistes masculins. Et donc là, on a Maggie Ball qui ouvre la soirée, qui est une femme. On va retrouver des demoiselles dans les fins de siècle. Et effectivement, dans les propositions de journée, on a des intervenants et des artistes féminines qui nous rejoignent. On arrive un petit peu à équilibrer ça cette année. Et c'est vrai que c'est un enjeu aujourd'hui quand on programme.
700 personnes au total sont attendues ce samedi et dimanche à la Mêlerie à Pré-en-Paille. Le prix à l'entrée est libre, c'est-à-dire que chacun met ce qu'il veut, ce qui lui semble juste. Ouverture des portes dès demain à 14h et dimanche à 11h, avec même un camping proposé sur place. Et puis une autre proposition à noter dans vos agendas, un joli spectacle de cirque proposé ce soir à Laval, la folle allure de la compagnie du même nom, un spectacle poétique que nous présente Gaëlle, l'une des membres du duo avec son partenaire de scène Guillaume. Elle revient d'ailleurs sur leur rencontre.
En école de cirque, je me suis formée pendant 4 ans et donc à la sortie de l'école, on s'est rencontrés pendant nos cursus en école de cirque. Et à la sortie de ça, on a d'abord monté un collectif avec plusieurs circassiens qui a duré 2 belles années, qui s'est arrêté et suite à ça, on a décidé de partir à deux, de monter la compagnie La Folle Allure. Donc le spectacle La Folle Allure, c'est le premier spectacle de la compagnie qu'on a créé en 2014. Ça va faire 9 ans qu'il tourne. Depuis, on a créé d'autres spectacles avec la compagnie, mais celui-ci, c'est le premier et il continue de tourner. L'écriture de ce spectacle est quand même assez précise et assez millimétrée quand même. Mais il y a toujours des espaces. Bon, déjà, nous, on a forcément changé en 8 ans. Et le défi, c'est quand même à chaque fois de réussir à revivre ce spectacle comme si c'était la première fois, en tout cas pour qu'il reste vivant. Et il a forcément un petit peu évolué pendant les 8 années, c'est sûr. Alors, on est dans un univers de cirque ancien, avec vraiment l'envie de retrouver cet univers voilà, de cirque ancien, avec plusieurs disciplines de cirque. Donc, on a du vélo acrobatique, de la corde lisse, du machinois, de la marche au plafond, du lancer de couteau. Et ce spectacle va retracer un peu la rencontre entre un lanceur de couteau et sa partenaire. Et il revisite justement cette relation entre le lanceur de couteau et sa partenaire, un peu un stéréotype du cirque, pour essayer de le traiter différemment et de voir où ça nous amène quand ça se passe pas forcément tout comme prévu. On est sur une narration très très ouverte où il y a un fil rouge et une relation entre ces deux personnages qui évolue tout au long du spectacle, mais la narration reste très ouverte à ce que le spectateur puisse raconter vraiment sa propre histoire et s'identifier au personnage. C'était un univers qui nous faisait rêver. C'est de là qu'on vient, même si aujourd'hui on fait du cirque contemporain, c'est aussi un hommage de là où on vient, quoi, du cirque traditionnel et du cirque de cette époque-là. C'est aussi une invitation pour le spectateur à plonger dans ses souvenirs, dans l'imaginaire, dans la poésie. Et c'est vraiment le langage fort de la compagnie et de ce spectacle. C'est vraiment un langage poétique où on va tenter de faire voyager le spectateur au fil d'images poétiques qui vont lui raconter des choses qui ne seront pas forcément les mêmes choses en fonction de chacun. Mais voilà, c'est ça l'envie en tout cas. Alors, il n'y a pas de limite d'âge. C'est vraiment un spectacle qui est tout public et surtout qui peut avoir vraiment des lectures différentes en fonction de l'âge. Donc c'est vraiment de 1 an, disons, à 100 ans.
À voir ce soir à 19h, place Pasteur devant la maison de quartier des Fourches à Laval. C'est un spectacle gratuit dans le cadre des estivales de Laval Agglo et ce sera d'ailleurs une première à Laval pour les deux circassiens de la compagnie La Folle Allure. C'est l'heure de passer au quatrième et dernier épisode de notre feuilleton consacré au laboratoire photo du club Le Kiosque à Images à Château-Gontier. Depuis le début de la semaine, on plonge dans la photo argentique, ses techniques, ses avantages et puis ceux et celles qu'il pratique encore et toujours. Et aujourd'hui, on zoome avec Philippe Lemoine, le président de l'association, et deux autres de ses membres sur le côté artisanal de l'argentique.
Ça vous permet de faire votre propre photo, votre développement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une base de 2 minutes, 10 secondes, mais peut-être que vous avez envie de pousser un peu plus ou un peu moins, en fonction de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez envie de voir, et ce sera votre photo, quoi. Par contre, la refaire à l'identique sera un peu plus compliqué, mais oui, on y arrive aussi quand même. Mais pour vous donner une idée, par exemple, sur une photo noir et blanc, maintenant, lorsque vous avez une zone que vous trouvez ou jugez trop blanche, bon, bah, avec le logiciel, vous ciblez, vous noircissez. Là, il fallait découper un carton, remettre un peu plus des caches, qu'on appelait des caches, remettre de la lumière ou pas sur le papier à développer, etc. Donc il y avait tout un système très compliqué quand même, et remettre dans le bain, etc. Donc c'était un métier d'ailleurs, le tireur, et beaucoup d'essais à faire. Hein.
On est sous l'agrandisseur et on projette la lumière. Alors moi, je n'utilise pas de cache, j'utilise juste mes mains. Et on passe, on cache, on sculpte la lumière pour faire apparaître plus ou moins l'image d'un côté, ou le noir, ou le gris. Et donc c'est bien sculpté avec la lumière. On fait déjà une première image, on la développe, on se dit « Ah bah tiens, là c'est trop sombre, ou là c'est trop clair ». Donc après, sous l'agrandisseur, on va empêcher que ce soit trop sombre ou rajouter de l'éclaircie à certains endroits avec une nouvelle feuille. Bien sûr, on est obligé de prendre une deuxième feuille et on regarde le résultat. Si la deuxième feuille, ça nous convient, des fois, ça ne convient pas. Donc on recommence une troisième feuille. Celui qui a l'habitude, il arrive à le faire en deux feuilles, mais voilà, c'est ce plaisir de sculpter un rapport, encore une fois, avec la matière. Quelque part, comme ce n'est pas répétable toujours, bah, chaque photo est unique. Il n'y a plus qu'à la signer quelque part. Et elle est unique.
Réfléchir un peu plus à l'image que l'on veut réaliser. C'est-à-dire que vous allez être sur place, et voilà, je veux cette composition-là pour un portrait ou pour un paysage, etc. Donc déjà, vous vous placez en fonction de ce que vous voulez réaliser ou tel que vous imaginez la photo. Parce que après, vous avez vu tout le processus que ça prend. Gâché parce que vous avez été trop rapide par un mauvais réglage ou un mauvais cadrage, mais on pense différemment. Donc on prend beaucoup plus de temps. Et au bout d'un moment, on dit, bah, non, finalement, c'est pas terrible ici, je m'en vais. Quoi. Bon, pas quand c'est un portrait, on est obligé de rester, mais pour un paysage, par exemple. Ouais.
Dans toutes les séances qu'on fait, en particulier, on fait beaucoup de séances de lecture d'images. Et en fin de compte, c'est pour apprendre aussi aux gens à utiliser leur appareil, à sortir des automatismes, hein, parce que c'est vrai que maintenant, il y a des appareils numériques qui permettent énormément de choses. Dedans, vous avez des micro-ordinateurs, quoi, en quelque sorte, qui gèrent énormément de choses. Mais en fin de compte, on s'aperçoit très bien que dans des conditions un peu particulières ou des choses comme ça, il est utile de passer, et ce sont exactement les mêmes bases, en fin de compte, qu'on peut retrouver avec des semi-automatismes ou voire quelquefois d'utiliser des positions manuelles où on va utiliser toujours les notions de vitesse, les notions de diaphragme, etc., qu'on retrouvait avant par rapport à l'argentique, quoi. Souvent, bon, les anciens un petit peu comme nous qui avons connu les deux, on reste un petit peu sur le même fonctionnement. On fait peut-être moins de photos. Après, ça dépend un peu ce que l'on fait, quoi. Si on fait, par exemple, de l'animalier, le numérique, c'est un gros avantage parce que, bon, les appareils permettent de beaucoup plus mitrailler, d'avoir des choses, donc c'est intéressant. Où on avait utilisation de, ça c'est celle de gauche, c'est une photo argentique, c'était avec des pellicules infrarouges, donc en noir et blanc. Donc les pellicules infrarouges normalement sont à utiliser pour la nuit. Et en fin de compte, on utilisait ces photos-là. Et si vous regardez la photo, là, celle de gauche, qui est une photo de Ménil, alors, il y avait tout un processus, justement, de réflexion au niveau par rapport au temps, etc., d'utilisation, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est que, si vous voulez, vous voyez qu'il y a des parties très, très blanches. Et tout ce qui était chlorophylle en jour apparaissait de cette façon, avec un côté un petit peu laiteux, avec et c'est rigolo. Maintenant, vous avez des logiciels ou des pour le numérique qui permettent un petit peu la même chose. Quelque part, bon, les techniques sont un peu évidemment ont évolué, c'est pas la même chose, mais les principes, en quelque sorte, on les retrouve, quoi. C'est-à-dire que souvent, c'est ce qui est intéressant dans le club, c'est de montrer aux gens, que ça soit en numérique ou éventuellement pour ceux qui seraient intéressés par l'argentique, en fin de compte, quels sont les moyens pour progresser. Des possibilités immenses, il y a plein de choses à faire. Évidemment, ça demande un petit peu de motivation, d'envie, d'un peu de recherche, de créativité, quoi. Bon, sortir un petit peu du côté un petit peu automatique, ce qu'on trouve facilement. Puis bon, on passe dans une création un petit peu différente.
Si ça vous tente, le kiosque à images reprend ses activités dès le mois de septembre, avec des sessions programmées tous les 15 jours, sans compter d'autres rencontres et des stages tout au long de l'année. Toutes les infos sont à retrouver sur kiosqueaimages.fr et tout l'été, vous pouvez aussi profiter de l'exposition de Frédéric Bir à la piscine de Château-Gontier sur ses musées. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous dis donc à lundi pour une nouvelle estivale du local dès 7h30, rediffusée à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end.